déplacer les infos. Au lieu de les dire après l'enseignement, on les dit avant. Mais c'était pour donner davantage d'importance au silence. On s'est dit que mettre les infos à la fin de la messe, à la fin de l'enseignement, c'est comme un peu briser un peu cet esprit de silence qu'on voudrait garder pendant la journée. Non ? Et donc, seulement un petit mot pour comment dire ? Oui, mais aussi pour garder la richesse de cette vie intérieure qu'on voudrait protéger pendant la journée. Okay, les règles qu'on s'est données, on les connaît. Mais voilà, aussi parce que une retraite spirituelle, ça se joue sur la durée. Non, c'est quelque chose qu'il faut. Il y a aussi une sorte de effort à faire pour que la chose aille encore plus en profondeur. Non ? Donc, les maîtres de spiritualité disent que c'est pas un jour, c'est pas deux jours, c'est pas. Et donc, Saint Ignace arrive jusqu'à 30 jours. Je n'ai pas le courage. Hein. Je n'ai pas encore eu le courage de faire les exercices de Saint Ignace de 30 jours. Mais là, pour vous dire que c'est une expérience qui doit mûrir, et il faut se donner le temps pour mûrir. Et donc, l'importance de ce silence. Voilà.
Et aussi, le silence est un acte d'amour, parce que si tu restes en silence, tu aides l'autre à garder lui aussi le silence. Donc, on peut le faire comme un acte d'amour. Ça prend du sens. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi après le film de Chiara, qui l'a vu. On le reverra demain soir. Pour ceux qui n'auraient pas eu la... Non ? Non, c'est... Ah, d'accord. C'est demain jeudi. Ah, demain c'est mercredi. Bon, alors on est un peu déphasé. Demain c'est jeudi. Alors aujourd'hui c'est moi qui prends la parole, comme vous voyez. Tout le monde entend bien. Paraît-il, je dois un peu plus articuler. Le thème d'aujourd'hui, je vous le dis comme ça d'emblée, c'est la réconciliation. Alors, si on regarde encore la mosaïque, on va vraiment se centrer sur cette personne de Jésus, ressuscité, parce qu'il est dans la gloire, mais il porte les signes de la passion. Et on voit aussi que la croix, cette grande croix, elle s'étend sur le monde, et certainement la résurrection, la force de la résurrection, sans qu'on le voit, sans qu'on le sache, ça rebouge le monde, c'est une recréation, c'est une nouvelle création. C'est une réconciliation pour l'humanité qui est à l'œuvre sans que nous le sachions, sans que nous le voyions toujours. Mais nous, on a vraiment le rôle, la fonction, nous chrétiens, d'être des ressuscités. On ne peut pas dire que, quelquefois, certains ont dit que si la réalité de la résurrection n'existait pas, ça ne changerait pas notre vie. Bien justement, la résurrection, elle est à l'œuvre, c'est une nouvelle création qui existe, qui nous transforme, et justement parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. On peut l'enlever. Et, avant-hier, on a été interpellé par cette phrase de Jésus à Nicodème au chapitre 3 de Saint Jean qui nous dit, qui répond à Nicodème, on dirait, un petit peu à côté de la question de Nicodème qui lui dit « Maître, nous savons que tu es un prophète, les signes que tu accomplis ne peuvent venir que de Dieu. » Et Jésus répond, c'est pas une réponse en réalité, mais il donne cette affirmation, « Si nous ne renaissons pas, si tu ne renais pas de l'eau et de l'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. » Alors, c'est un peu de cette renaissance que nous allons parler aujourd'hui, dont nous allons parler aujourd'hui. Et alors, on va maintenant directement au chapitre 13 de Saint Jean. Ce chapitre 13, on en reparlera, mais je vous dis simplement une toute petite clé de lecture. Il commence par un verset important, parce que c'est comme une charnière entre deux parties de l'évangile. Et ce verset dit, Jésus, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Et cet amour, il va se manifester à partir du chapitre 13 jusqu'à la résurrection. Mais le premier signe de cet amour jusqu'à l'extrême, c'est le lavement des pieds. Alors, Jésus se lève de table, enlève ses vêtements, met un linge autour de lui, verse de l'eau dans un bassin et, dit Saint Jean au verset 5 du chapitre 13, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était saint. Il arrive à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Et Jésus répond « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre répond « Alors, non seulement les pieds, mais la tête et le corps tout entier. Tu n'auras pas de part avec moi si je ne te lave pas les pieds. » Pierre se rebelle à l'idée que Jésus, c'est Pierre qui a dit « tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu, je sais qui tu es. » Donc il a fait cette déclaration à Jésus, donc il sait qu'il est Dieu, il a été présent aussi à la transfiguration. Et il ne peut pas accepter que Jésus, le Saint de Dieu, l'envoyé, puisse lui laver les pieds. Il refuse catégoriquement. Or, Jésus lui dit, tu comprendras plus tard, mais si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Tu ne pourras pas participer au royaume. Et alors, dans un élan de générosité, parce que qu'est-ce qu'il veut? C'est partager la vie de Jésus, c'est avoir part à cette parole, à cette beauté, à ce divin qui l'a fasciné. Et alors il dit non seulement les pieds, mais la tête et le corps tout entier. Ça pourrait suffire. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Il demande au fond, en lavant les pieds des apôtres, de lui donner la possibilité de nous aimer, de nous pardonner, de nous recréer. Se laisser laver les pieds, c'est donc un don, c'est un acte d'amour. Et on a parlé de cet amour de Dieu, on a parlé de faire sa volonté, mais c'est aussi se laisser aimer par Dieu. Il y a comme une réciprocité entre Dieu et nous, peut-être la seule qui soit vraiment parfaite et totale. quand nous nous laissons laver les pieds, quand nous nous laissons purifier, quand nous nous laissons recréer, nous lui donnons la possibilité de nous aimer. Et nous l'aimons aussi, puisque nous avons en quelque sorte deviné ce qui lui fait plaisir, ce qu'il aime faire. Donc, il y a dans cet acte un double amour, celui de Jésus qui se met à notre service et le nôtre qui accepte ce service. Donc, en Dieu, ça nous fait comprendre quoi ? Qu'en Dieu, il y a une attente d'être aimé. L'attente d'être aimé. Il attend notre amour. En le laissant agir, abdiquant un peu à notre autonomie, à notre suffisance. Et là, c'est la grandeur de notre liberté qui accepte d'être aimé et d'aimer à son tour. Et aussi, comme s'il y avait en Dieu une réceptivité. C'est vrai qu'il est don, mais il est aussi capacité de recevoir. Recevoir en Dieu, ça existe. Il attend. Il y a une réception. Et c'est quelque chose de divin de recevoir. Et se laisser aimer n'est pas moins divin qu'aimer. Voilà donc un premier tableau, on peut dire, hein, qui nous dérange. Et c'est pourtant la condition pour avoir part à la vie de Jésus, à la sainteté. On a quelque chose de très concret, on a une image, on voit, on peut s'identifier. Saint Paul dit un peu la même chose, en d'autres termes, plus théologiques on pourrait dire, mais qui signifie la même chose. C'est plus abstrait, c'est plus psychologique, c'est une attitude du cœur. Mais gardons ce tableau de Jésus qui se met à genoux devant nous pour nous laver les pieds. Et regardons maintenant ce que nous dit Saint Paul au chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. Renaître, c'est toujours ça au fond l'enjeu, renaître. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et, dit Saint Paul, nous a confié le ministère de la réconciliation. Paul est conscient d'avoir un ministère, de nous réconcilier avec Dieu. C'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait avec le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Et puis Saint Paul se fait suppliant. Nous sommes, mais parle à la première personne, nous sommes en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et là, notre liberté est en jeu. La réconciliation du monde avec Dieu, notre réconciliation avec Dieu, et son corollaire, on pourrait dire, c'est-à-dire la façon dont cette réconciliation est advenue sur la croix, là où il a pris notre notre condition d'homme et notre péché. Et c'est offert à l'homme et c'est jamais imposé. Nous sommes libres de l'accueillir. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est un don. C'est comme un héritage qui nous est proposé, qu'on peut prendre ou refuser. Et Paul part en campagne. Il a reçu ce ministère de la réconciliation. Et ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas quelque chose qui advient sans notre liberté, sans notre adhésion. Si Dieu nous a réconciliés dans le Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Autrement dit, faites en sorte que Dieu, qui désire ardemment nous communiquer sa sainteté, sa vie divine, de paix, de joie, de son royaume, qu'il puisse le faire. Qu'il puisse le faire. Il ne nous oblige pas. Il nous supplie au nom du Christ de ne pas gâcher ce don que Dieu nous a fait. Ce n'est pas facile d'accepter. C'est la même chose que le lavement des pieds. Que le Christ nous a aimés jusqu'à prendre notre péché et nos morts qui nous séparaient de Dieu. Accepter que Dieu se soit abaissé, réduit à l'impuissance, que notre conduite l'était éliminée, mise à mort. Et pourtant, pour devenir justice de Dieu, c'est-à-dire pour vivre d'une vie nouvelle, pour renaître, et nous devons suivre ce chemin et nous laisser réconcilier. C'est la logique de Dieu. C'est vrai que c'est paradoxal. C'est vrai que là, ce n'est pas seulement la tête qui est en question, mais c'est le cœur. C'est peut-être aussi simplement de se mettre devant la croix, au pied de la croix, regarder cet amour de Dieu et de se laisser et d'entrer dans ce courant de l'amour qui est paradoxal. Alors, si on connaît donc le goût, les goûts de Dieu, qui est donc de nous communiquer sa vie, mais de cette manière-là, pas d'une autre, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner nos faiblesses, nos misères, nos péchés. Je vous lis une citation de... Bon, tous les saints nous l'ont dit, hein, c'est pas une nouveauté. Mais là, je vous lis une phrase de Chiarac qui pourrait être aussi de... Sœur Faustine, qui a beaucoup parlé de la miséricorde de Dieu, et qui a écrit à une de ses amies, elle dit « Notre âme ne peut s'unir à Jésus qu'en lui offrant en cadeau, comme seul cadeau, non pas ses vertus, mais ses péchés. Parce que l'âme qui aime, la personne qui aime, connaît les goûts de celui qu'elle aime. Et elle sait que si Jésus est venu sur la terre, s'il s'est fait homme, s'il désire ardemment une seule chose au fond de son cœur, d'homme-Dieu, c'est être notre sauveur, être notre médecin. Il ne désire rien d'autre. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, dit Jésus. Et Chiara continue, c'est un feu dévorant qu'il a apporté, et il ne désire rien d'autre que dévorer nos pauvres misères, trouver des misères à consumer. Voilà pour la réconciliation qui nous est offerte et pas imposée. Et que je pense que la meilleure chose pour entrer dans ce paradoxe, cet amour paradoxal, c'est vraiment de se mettre au pied de la croix et de regarder et de laisser que cet amour nous envahisse. Réconciliation donc avec Dieu. Mais aussi réconciliation entre nous. Le premier jour, Gianluca nous a parlé donc de ce Jésus qui entre au Cénacle et qui vient nous prendre là où nous sommes, dans nos peurs et dans nos faiblesses. Et Jésus, le passage se termine par ce verset. Jésus souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc, on est dans le cadre de la résurrection. C'est Jésus ressuscité qui entre au Cénacle. Et donc, le lieu du pardon des péchés, c'est le ressuscité, c'est la vie du ressuscité. C'est donc vraiment une renaissance quand entre en nous le pardon des péchés et entre parmi nous le pardon des péchés. C'est là, disons que le pardon des péchés, c'est la vie de la résurrection. Alors, ce n'est pas facile de pardonner, on le sait tous, hein, quand une offense nous a blessés, quand une attitude nous a humiliés. Peut-être on ne va pas avoir de réaction violente, mais peut-être que oui. Mais au moins, on va se tenir à distance de celui qui nous a blessés, offensés, ou on va même l'effacer de notre vie, on va plus question de le voir. Comme pour éviter d'être contaminé par lui. On va l'écarter du champ de notre conscience, comme pour mettre un peu de baume sur cette blessure. Le temps va réparer la chose et donc n'y pensons plus. Mais voilà, on est quand même appelé à l'unité. Et là, je viens d'ériger un mur entre moi et cette personne. Donc, je refuse l'unité. Je dis oui, oui, ça peut aller avec tous, mais pas avec cette personne-là ou ces personnes-là. Combien dans les familles, combien on voit ces difficultés-là. Et alors, si vraiment le cri de Jésus que tout soit atteint nous a touchés, il doit bien exister un moyen de pardon, un moyen de pardon. L'Église est un corps. Et tant que les membres de ce corps ne communiquent pas entre eux, eh bien c'est comme un corps atrophié, c'est comme un corps où la vie ne circule pas, moitié malade. Alors, je donne encore une image de Chiara Lubich qui, pour moi, m'a beaucoup parlé. Elle voit comme si les relations entre nous, c'était ce corps du Christ, comme un réseau de galeries, de relations, de galeries. Et elle déplore, elle regrette que ces galeries soient obscures, que la lumière ne passe pas entre les hommes, entre nous. Alors que la lumière pourrait passer, parce que Jésus est ressuscité. Lui, qui voulait le ciel sur la terre, qui voulait l'unité de tous avec Dieu, qui voulait le réseau de galeries illuminées. Jésus présent non seulement dans l'âme de chacun, Jésus présent non seulement dans l'âme de chacun, mais dans la relation entre chacun. Récemment, je dois dire que je me suis posé la question, alors est-ce que avec toutes les personnes, la galerie est illuminée, toutes les personnes qui m'entourent. Et sur le moment, j'ai dit, oh oui, bien sûr, toutes les relations sont illuminées. Et puis, en prenant mon temps de bien regarder, eh bien, j'ai vu que là, il y avait une petite réticence, que là, oui, c'était quelqu'un que j'évitais, là, et vraiment qu'il y ait la lumière. Et c'était un bel examen de conscience. que la lumière. Et je sentais que ça devait partir de moi, hein, pour déblayer cette galerie entre chacun, que ça soit que lumière. C'est un travail constant. Alors, vous avez vu hier le film et vous avez vu que la relation était chaleureuse entre ces premières focolarines, mais c'était quelque chose à reconstruire tous les jours. C'était quelque chose à reconstruire tous les jours et Chiara était bien consciente que quelque chose pouvait s'accumuler de négatif et qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps parce que quand ça devient fort et dur, ça va être plus difficile à éliminer. Alors, un jour, elle leur a proposé, mais bien sûr, elles avaient toutes le même choix, bien un choix qu'elles refaisaient tous les matins, tous les jours, elle leur a proposé comme de faire un pacte de miséricorde. Chaque matin, on va se réveiller comme si on ne se connaissait pas, comme si vraiment, c'est la première fois que je te vois, donc je ne sais plus ce défaut, je ne sais plus ce désordre que tu as laissé, je ne sais plus cette petite phrase un peu négative que tu m'as dite, je te vois nouvelle, comme pour la première fois, en voyant Jésus en chacune. On peut dire qu'elle nous a parlé toute sa vie de la miséricorde, parce que dans une spiritualité pour l'unité, pour la communion, la miséricorde est indispensable. Et elle nous a donné, je peux dire, beaucoup d'arguments pour nous convaincre qu'il faut y arriver. Non ? Le premier argument, bien sûr, c'est basé sur l'Évangile, c'est d'aller jusqu'au bout de notre être à image de Dieu, de notre réalité plus profonde. Nous sommes image de Dieu qui est miséricorde. Si au ciel, c'est la miséricorde qui est la règle, il doit en être de même sur la terre. Si nous sommes tous enfants d'un même Père, alors notre regard doit se convertir et se conformer à celui de Dieu. Si quelqu'un, on est encore dans le cadre de la communauté, si quelqu'un fait une erreur objective dans la communauté, mais on peut se demander, mais de quel œil Dieu voit cette personne? Quel est en réalité son état? Quelle est la vérité de sa situation? S'il est en paix avec Dieu, Dieu ne se souvient plus de rien. Pourquoi est-ce que moi je devrais me souvenir? S'il a tout effacé de son sang, alors pourquoi me souvenir? Qui est dans l'erreur en ce moment-là? Est-ce ce frère? Où est-ce moi? C'est moi qui me souviens. Et elle ajoute, la charité se maintient par la vérité. Et la vérité, c'est la miséricorde. Dont nous devons être revêtus de pied en cap pour pouvoir nous dire chrétiens. Elle ne fait jamais la morale, car elle part de ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est une réalité qui devient un impératif. Nous sommes, alors soyons. Hein, soyons miséricordieux. Non pas parce que nous devons, mais parce que nous pouvons. On va arriver. Ça, c'est bien évident qu'on a tous des choses qui se sont accumulées. Hein. Alors, l'amour, ça n'ignore pas les erreurs des autres. Ça ne les relativise pas non plus. Mais cela, on les regarde en face, et une chose qui nous aide beaucoup, qui m'aide beaucoup personnellement, c'est de regarder Abraham, Moïse, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui vont plaider la cause de leurs frères qui sont en erreur auprès de Dieu. S'il y avait simplement dit, fait tout un chantage, Abraham, S'il y avait 25 pécheurs, est-ce que tu vas détruire toute la ville? S'il y avait simplement 25 justes dans cette ville de milliers d'habitants, est-ce que tu vas détruire toute la ville alors qu'il y a 25 justes? Et puis il fait tout un chantage jusqu'à arriver à 10 justes. S'il y avait 10 justes. Et Dieu écoute. Donc, alors quelquefois, combien ça nous aide de dire à Dieu, mais regarde toutes les vertus de cette personne qui est en train de faire plein d'erreurs. Donc, on devient des avocats. C'est l'attitude d'Abraham, mais c'est surtout de Moïse, mais c'est surtout celle de Jésus qui nous a aimés jusqu'à la croix, à l'abandon de Dieu, et que Dieu a identifié au péché pour que lui, nous devenions justice de Dieu. Et Chiara va jusqu'à écrire, elle, à chaque erreur commise par mon frère, je demande moi-même pardon au Père, comme si c'était à moi. Comme si mon amour en prenait possession. Ainsi, je suis Jésus devant le Père, comme péché. Et donc, je suis dans le plus grand acte d'amour envers le frère et donc envers le Père. Donc, je suis comme Jésus qui enlève le péché du monde. Et mon amour les paie en les brûlant. Alors, je pense que c'est un saut qui nous... un saut, disons, dans l'amour et qui nous aide à renaître. J'ai encore quelque chose à dire, mais je pense qu'on peut s'arrêter quelques secondes, parce que c'est déjà fort. Un chemin de pardon. C'est un chemin. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas instantané. Un chemin de pardon. Alors, je vous donne ce qui m'a aidé personnellement, bien sûr. Hein, c'est en méditant longuement un écrit de Chiara Lubich pour chercher à à partager cette relation qu'elle a avec Dieu, comme elle nous l'a donnée avec plein d'écrits pour entrer moi aussi dans ce courant d'amour de Dieu. J'ai été aidée par un texte à accueillir la profondeur de la miséricorde. À travers cet écrit, il m'a semblé comment trouver les étapes d'un chemin de pardon. Qu'elle décrit elle-même avec précision, comme si elle en était elle-même la protagoniste de ce chemin, même si le mot miséricorde n'est jamais employé. C'est un texte splendide qui est très riche. Moi, je vais vous en parler simplement d'un point de vue de la miséricorde qui m'a touchée, mais qui a été commentée même dans un livre, tout un ouvrage. Ça s'appelle, le titre, c'est « La résurrection de Rome » et qui est un écrit de 1949. Le contexte de cet écrit, qui est publié d'ailleurs dans « Pensée et spiritualité », le contexte, c'est Chiara, qui était donc de 30, une ville certainement, une petite ville protégée, chrétienne, disons, d'un bout à l'autre, hein, Elle est arrivée à Rome, où déjà certaines personnes avaient été attirées par la vie évangélique qu'elle propose, qui était née autour d'elle à 30. Et bien sûr, pour Chiara, une provinciale, on peut dire, pour elle, Rome, c'était la Rome des premiers chrétiens, les martyrs, le Colisée, la première dans la charité, comme elle a été définie par un père de l'Église. Donc, elle devait y retrouver cette charité, ce témoignage des chrétiens. Et voilà qu'est-ce qu'elle voit ? Elle le décrit avec des mots très forts. Elle dit des obscénités, des vanités dans les rues et plus encore dans les maisons où règne la colère, l'agitation et toutes sortes de turpitudes. Voilà. Le contexte est d'autant plus fort qu'elle vient de vivre avec ses compagnons. Donc c'était, comme justement me suggère Gianluca, c'est la Rome de l'après-guerre. On est en 49, hein, donc c'est une renaissance et les gens qui revivent, etc. Mais non seulement elle vient d'une ville de province chrétienne de fond en comble, mais elle vient aussi d'une très forte expérience avec ses premiers compagnons et ses premières compagnes de contemplation, de se retrouver, on pourrait presque dire, dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et elle, une période où elle comprend plein de vérités de la foi, si bien qu'elle avait appelé cette période Paradis 49. Mais c'est donc un contraste terrible pour elle. Donc, elle décrit cette situation qui la bouleverse, qui lui fait dire, comme dans un premier temps, c'est inutile d'avoir cet idéal d'unité, cet idéal de fraternité, c'est une utopie. Et dans un premier temps, c'est ce qu'elle pense. Hein. Mais elle se ressaisit aussitôt en pensant à ce que Jésus aurait fait à sa place. Et elle écrit, mais lui aussi, il a connu un monde semblable à celui-ci. Lui qui voulait porter la fraternité entre les hommes, il a pleuré sur Jérusalem. Et le monde, ce mal dans le monde, l'a englouti lui-même. Il a été vaincu. On peut dire qu'il semblait vaincu par le mal. Mais elle repense à Jésus, donc, qui voyait le monde tel que je le vois, elle, écrit-elle. Mais lui, quelle était sa force ? Il contemplait le ciel au-dessus de lui. Il priait la Trinité, qui est l'être véritable. Donc il s'enracinait dans ce qu'il y a de vrai, qui est Dieu. Alors que cheminait à côté de lui le néant qui passe. Même s'il était, elle dit, attristé, insatisfait, même s'il voyait le monde tel que je le vois, il ne doutait pas, il ne doutait pas. Alors, elle modèle aussitôt son attitude sur celle de Jésus. Elle dit alors, moi aussi, je vois ce monde, il voyait le monde, mais il ne doutait pas, alors je vais modeler ma vie sur la sienne, je vais agir pour lui, comme lui, pour ne pas m'éloigner de cette vie, avec un grand V, pour croire à la victoire finale de la lumière sur les ténèbres. Donc, elle aussi, elle s'enracine en Dieu. C'est-à-dire qu'elle va puiser sa force dans l'être véritable, dans la vérité, et voir le reste comme quelque chose qui n'existe pas. D'où la ferme résolution. Elle dit, je passe par les rues de Rome, mais je ne veux pas la regarder. Je veux regarder ce qu'il y a en moi, cette vie divine qui palpite en moi. et je m'attache à ce qui a vraiment de la valeur. Je me fais tout un avec la Trinité qui repose dans mon âme, qui l'éclaire de lumière éternelle et l'emplit du ciel, tout peuplé de saints et d'anges, qui peuvent être tous rassemblés dans mon humble personne, en unité d'amour avec les trois personnes. Donc, c'est comme prendre racine, prendre le temps de s'unir à Dieu, de lui demander son regard. Voilà la vérité qui me libère de mon regard, de mon jugement. Le mal moral qui m'entoure et menace de m'engloutir, l'enfance reçue ne sont qu'un néant qui passe. Cela n'existe pas. Comment ça pourrait prendre la place de ce qui est notre être véritable, notre racine, et qui peuple notre âme de tous les habitants du ciel? Alors, à ce point, on peut rouvrir les yeux parce que nous sommes transformés, notre regard est transformé en celui du Christ. Et elle écrit, à travers la pupille qui est vide sur l'âme, par laquelle passe toute la lumière qui est à l'intérieur de moi, si je laisse vivre Dieu en moi, je regarde maintenant le monde et les choses. Mais ce n'est plus moi qui regarde. Et là, c'est quelque chose de... Voilà, c'est comme une résurrection. Ce n'est plus moi qui regarde. C'est le Christ en moi qui regarde et voit à nouveau des aveugles à qui redonner la vue, des muets à faire parler, des estropiés à faire marcher. Oui, ils sont aveugles parce qu'ils ne voient pas Dieu en eux et hors d'eux. Ils sont muets à la parole de Dieu qui pourtant parle en eux et qui pourrait être transmise. Ce sont des estropiés immobilisés qui ne connaissent pas la volonté divine qui les incite au mouvement éternel qui est l'amour éternel où se transmet le feu qui vient les enflammer. Donc, ouvrir le regard et voir comme Jésus qui voyait des muets à faire parler, des aveugles, à faire revoir, à qui ouvrir les yeux. Donc, brûlés par le feu divin qui est en nous, nous participons comme au cœur de Dieu. Nous partageons son regard et nous revivons cette tendresse de Dieu, ces entrailles de mère que les prophètes ont célébrées et que Jésus a révélées en plénitude. Et qui a écrit, c'est pourquoi, ouvrant de nouveau les yeux sur le monde extérieur, je vois l'humanité avec l'œil de Dieu qui croit tout parce qu'il est amour. Alors, mais la démarche va encore plus loin. Ce regard posé sur l'autre, n'est pas une fiction, n'est pas un rôle de théâtre. C'est la vérité. Je vois un candidat à aimer Dieu, quelqu'un qui pourra revivre en aimant Dieu. Je vois et je découvre chez les autres, écrit Chiara, ma lumière même. La réalité véritable de mon être, mon véritable moi, parfois enfoui ou secrètement déguisé. Parce qu'on a toujours tendance à se cacher derrière des masques. Hein. Donc, je vois plus ce masque de cette personne. Je vois vraiment ce qu'il est, un enfant de Dieu. Et je me réunis à lui en ressuscitant moi-même dans mon frère. Parce que la miséricorde, non seulement redonne la vie à l'autre, je le ressuscite en quelque sorte, mais aussi à nous-mêmes, à moi-même. La miséricorde, ça me fait revivre, ça me fait renaître. Je prolonge le Christ en moi dans mon frère. Je vois en lui le Christ. Il y est. J'y crois. Et en quelque sorte, cette foi dans l'autre, ça le fait renaître. Combien de fois je l'ai vu personnellement. Mais, dit Chiara, il faut avoir le courage de ne pas s'attacher à d'autres moyens. Il faut faire renaître Dieu en nous, le maintenir vivant et le déverser comme des flots de vie sur les autres et ressusciter les morts. La miséricorde est un chemin d'unité. C'est bien plus qu'un baume sur notre âme et sur l'âme de l'autre, mais c'est vraiment un chemin de résurrection. C'est un avant-goût de résurrection. C'est une vraie résurrection dans l'instant présent. De l'écriture donc de Saint Jean et de la deuxième épître aux Corinthiens, je vous ai donné les versets et une prière qui nous met justement devant le crucifié au pied de la croix.
En écoutant ce que Florence nous disait, je me suis fait un petit examen de conscience. Qui a vécu avec moi Paul, il est où Paul? On a vécu quelques mois ensemble. Paul sait bien combien j'ai du mal avec ça. À pardonner et à... Et pendant que j'écoutais Florence, je me disais, mais quelle est ta difficulté? Qu'est-ce qui ne va pas en toi pour que tu n'arrives pas à pardonner? Et je me suis dit, mais en fait, le pardon, donner le pardon et recevoir le pardon, c'est quelque chose qui met en cause mon orgueil. C'est vraiment une question d'orgueil. On peut penser que Pierre était le plus humble des apôtres. Par contre, c'était le contraire. C'était le plus orgueilleux parce qu'il pensait ne pas avoir besoin de ce lavement des pieds de Jésus. Combien de fois je suis Pierre, mais pas le, le Pierre qui se trompe, qui en fait de tout, qui fait n'importe quoi. Non? J'ai énormément aimé de réentendre ce chantage d'Abraham envers Dieu. C'est vraiment sympa parce que je l'ai lu toujours comme... En fait, c'est une partie de l'écriture. C'est Genèse. C'est Genèse. Et à chaque fois, comme on sait comment ça se termine, ben, on pourrait couper entre sans juste et injuste et dire la finale. Ça suffirait. Mais par contre, ce parcours de justice qui se fait miséricorde, en fait, c'est un parcours lent qui se passe en nous. C'est un parcours qui demande du temps. Que ce parcours mûrisse en nous pour que la miséricorde, la justice devienne miséricorde. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui se passe en Dieu, c'est quelque chose qui se passe en nous. Et donc, je me suis dit, peut-être, je peux me mettre avec un peu plus de décision, une résolution un peu plus forte, à travailler avec patience mon orgueil. Non? Pour l'instant, c'est 100% orgueil, après, ce sera 80, après, ce sera 60, 40, 30, après, à nouveau 60, et après, on va voir. Hein. Non? Florence, en sa sagesse, dit les circonstances aident. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour vous dire que. Voilà.
Pas seulement ton travail.
Merci, Florence. Avec l'aide des autres. Mais voilà, voilà, seulement pour vous dire que à moi, cet orgueil, c'est quelque chose qui vraiment me. Voilà, qui appelle la miséricorde de Dieu et qui se fait quelque chose de devant à moi. Parce que le pardon, c'est vraiment divin. C'est pas.